Seigneur, nous dépendons de toi et nous sommes heureux de l'être. Parce qu'avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, il n'y a point d'échec, Seigneur. C'est vrai que la chair aimerait mériter les choses, prouver qu'elle est forte. Mais tout cela est vain. Nous voulons dépendre de toi comme des enfants et participer à ta gloire et non pas en produire pour nous-mêmes. À toi la gloire pour ta parole qui va nous aider à marcher dans la persévérance des saints jusqu'à ton retour. Merci Jésus. Amen. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. À partir du verset 12, mais normalement c'est que le verset 13 qui concerne notre sujet, mais je crois qu'il y a un lien avec le verset 12. Un lien qui n'est pas très clair, mais il y a un lien, c'est pourquoi je veux lire aussi le verset 12. C'est ici la persévérance des saints, dont les gens que Jésus a sauvés, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. J'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès à présent, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Je voudrais parler de notre existence qui doit être au service de Dieu. Il faut faire ce qu'il faut. Ce que Dieu veut qu'on fasse pour chacun d'entre nous, il faut qu'on le fasse parce que ce sont des œuvres qui nous suivront. Quelque chose n'a d'importance réellement que lorsqu'il y a une conséquence. Lorsqu'on fait des choses sans conséquence, ça n'a pas d'importance, c'est du vent. Et Apocalypse nous dit, la persévérance des saints, c'est de se maintenir dans la volonté de Dieu. Et que ce soit dans l'obéissance, que ce soit dans la pratique de la foi, ce sont des œuvres. Lorsqu'un frère ou une sœur obéit à Dieu, même s'il ne semble pas avoir produit quelque chose, la Bible considère ça comme une œuvre. C'est la persévérance des saints. Et il est écrit que de telles personnes, lorsqu'ils meurent, heureux sont-ils parce que finalement, ils vont entrer dans leur repos avec leurs œuvres qui les suivent. C'est le moment du repos. Mais malheureux, ceux qui n'auront pas donné leur vie au Seigneur, parce que c'est le moment de tourment qui commence. C'est ça la différence. L'homme veut faire des choses, mais ce qui est bien, c'est de servir Dieu. Nous lisons 2 Timothée 4, 7. 2 Timothée 4, 7. Et pour ça aussi, je lis le verset 6. C'est Paul qui parle à Timothée. « Car pour moi, me voici déjà offert en libation. » La libation, c'est ce qui clôturait les sacrifices. Donc, on tue un animal et puis on fait une libation de vin ou d'huile. Donc, on clôture en mettant un certain liquide. C'est ça la libation. Donc, Paul veut parler de la fin de sa vie. Il dit, « Donc maintenant, mes derniers instants, c'est comme une libation. Donc, ça clôture le sacrifice de toute ma vie. » Il dit, car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. Il sait qu'il va mourir bientôt. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Paul dit, maintenant, je peux m'en aller. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. C'est le moment aussi que moi, je jubile. Vous savez, comme on a lu l'Apocalypse au chapitre 14, au verset 13, 12, c'est la persévérance des saints. La vie chrétienne est liée à la persévérance. Parce que nous marchons en contre-courant. Nous marchons contre des vents, contre des tempêtes, dans des tempêtes. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens 6, Paul cite toute une liste de difficultés que rencontre un chrétien. Les faux frères, les trahisons, les faux apôtres. Il y a aussi des choses qui ne sont pas négatives comme telles, mais qui sont une certaine difficulté pour notre chair. Les jeûnes, les prières, qui nous humilient sans cesse. Et Paul dit aujourd'hui, je m'approche de la mort. Il ne me reste plus qu'à être offert en libation. Donc ma mort sera la clôture. Et puis ça sera le repos, car les œuvres vont me suivre. Il y a un chant que j'avais écouté en Hollande, où les gens chantaient et disent que ma force serve à servir le Seigneur. Parce que si je vis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Plein d'amis sont morts. Plein de gens sont malades. Et moi, si je me retrouve là, c'est grâce à Dieu. Alors que cette force serve au Seigneur. Et moi, j'ai dit à nous tous, puisque c'est Dieu qui nous a créés, nous sommes sa propriété. Donc c'est logique de servir Dieu, puisque c'est lui qui nous a créés. Ce n'est même pas discutable. Ça devient discutable à cause de la mauvaise foi de l'homme. Ça devient discutable parce que l'homme est en rébellion. C'est de la rébellion. Quelqu'un qui t'a créé, et puis toi tu veux discuter. Ça devait être naturel de se consacrer à Dieu. Parce que nous sommes à lui, parce que c'est lui qui nous a créés. Ça fait des discussions. Et lorsque ça fait des discussions, l'intelligence saine, je ne parle pas de l'intelligence qui fait des syllogismes, des déductions avec des raisonnements. Non, je parle de l'intelligence saine qui devrait nous apprendre à discerner le bien du mal. Cette intelligence nous quitte. Et la conséquence, c'est que même l'intelligence humaine ne nous sert plus à rien, puisqu'elle pouvait nous servir quand même à quelque chose. Mais elle ne sert plus à rien. Nous avons l'habitude, avec la chorale, de chanter dans les maisons de retraite. Et dernièrement, je disais à un frère, voilà ces personnes devant qui nous chantons. Ils sont fatigués, sont devenus comme des enfants. À qui les aides-soignantes doivent dire « Applaudissez, faites ceci. » On les porte, on les conduit. Moi, je dis, mais parmi eux, il y a sûrement des gens qui étaient des grands footballeurs, des docteurs, des ingénieurs. Je dis à Jean-Luc, mais comment ces gens-là ne peuvent pas venir à Dieu alors qu'ils sont si faibles? Ils ne se rendent pas compte que tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui n'a pas eu de conséquences véritables sur leur vie parce qu'ils se retrouvent dans un état de démunisme total. Ils sont faibles. La famille vient rarement les visiter. Où est la force de la jeunesse? Où est la force du directeur que pouvait être l'un d'entre eux autrefois? Il n'y en a plus. Les œuvres de la terre s'épuisent. Elles sont vanités. Salomon a dit vanité des vanités, tout est vanité. Vous savez, quand on parle de Salomon, il y en a qui retiennent la sagesse et une forme de richesse et aussi l'histoire de 1000 femmes qu'il avait. Mais bien aimé, Salomon, ce n'était pas que ça. Salomon a été un grand bâtisseur. C'est lui qui a bâti le temple de l'Éternel. Salomon a fait des jardins extraordinaires. Lisez l'histoire. Il a construit des choses. Il a fait des citernes, il a fait des routes. Salomon a bâti beaucoup. Mais c'est lui, Salomon, qui dit, j'ai fait tout ça, j'ai bâti, j'ai eu 1000 femmes, j'ai eu tout ce qu'un homme peut avoir, il le dit lui-même. Mais je me suis rendu compte que tout est vanité. Après avoir eu tout ça, l'œil veut encore voir. Après avoir tout vu, l'œil veut encore voir. Après avoir tout mangé, on veut encore manger. Il a vécu tout cela. Il dit, tout ça est vanité. Bien-aimé, imaginez votre état quand vous êtes rassasié. La vision même de la nourriture, quand vous regardez la nourriture, ça peut parfois vous énerver, puisque vous n'avez plus faim. Vous êtes rassasié. Et surtout quand vous faites un excès de table, là en plus vous avez mal au ventre. La nourriture qui était positive devient négative. Tout est vanité. Et même... On me dira, mais oui, mais il y a des gens qui ont, par exemple, trouvé des formules physiques qui ont changé la vie dans l'humanité, bien-aimée. Même ces gens-là, vous vous imaginez les gens comme Einstein, lorsqu'ils voient aujourd'hui que le monde, ils ont vu à un certain moment que le monde était en danger à cause de leurs formules. Puisqu'à partir de leurs formules, de leurs recherches, ben, la bombe atomique a été produite. Ces savants-là, ils étaient tristes. Ils se sont dit, mais pourquoi on a découvert tout ça? Si maintenant ça sert aux politiciens pour faire peur et aux guerriers. Même ces découvertes qui paraissent améliorer la vie sur Terre sont accompagnées de déceptions. Vous imaginez, Internet, ça améliore la vie, mais vous savez combien de gens aujourd'hui sont esclaves de beaucoup de péchés liés à Internet? Les paris, la pornographie, toutes sortes de dégâts se font par Internet. Les œuvres de la terre, soit elles sont insuffisantes, incapables d'apporter le vrai bonheur, soit elles détruisent et elles déçoivent. Elles déçoivent. Il y a des gens, juste parce qu'ils sont intelligents, ils veulent être le premier. J'ai connu un ami qui a fini bloqué psychiquement parce qu'il fallait qu'il soit toujours le premier. Et quand, une année, il n'a pas été le premier, il a été bloqué psychiquement. Il n'a pas pu évoluer normalement. Les œuvres de la terre sont passagères. C'est ce que l'Évangile appelle les richesses injustes. Non seulement elles sont passagères, elles sont incapables de satisfaire réellement l'homme. Et parfois, elles déçoivent. C'est pourquoi on les appelle les richesses injustes. Les mêmes choses qui sont produites pour faciliter la vie des humains, ça rend la vie des humains encore plus difficile. Aujourd'hui, vous savez que ce que fabrique Monsanto des céréales, des produits agricoles, OGM. Ils vendent les semences aux Indiens parce que leurs semences produisent beaucoup plus. Et dès que tu achètes leurs semences, tu produis beaucoup, d'accord. Mais l'année prochaine, lorsque tu veux utiliser la terre en mettant d'autres semences que les leurs, ta terre ne produit plus. Tu deviens esclave de leurs semences. Et cette entreprise est en train de se répandre dans le monde entier et d'établir des brevets. Un jour, on viendra t'arrêter parce que tu as planté quelque chose qui est sous brevet, détenu par Monsanto. Donc, on pensait avoir trouvé le secret pour que tout le monde mange. En réalité, ça sert encore à affamer et à contrôler. Les œuvres de la terre sont vanité. C'est ça la réalité. Vous savez, nous, quand on était jeunes, il fallait être le premier à l'école et finir le plus tôt. Mais quand tu as fini, 4 à 5 ans après, celui qui finit après toi, il est plus fort que toi parce que lui, il a encore la matière. Tu as fini 4 à 5 ans, tu n'as rien fait. Tu as fini très tôt les études. Mais après, tu n'as rien fait. Il y a d'autres qui étaient en retard, qui finissent après toi, donc ils ont fraîchement la matière. Et toi, tu n'as pas travaillé. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, c'est vrai, tout ça, c'est vanité. Vanité. Peut-être celui-là a traîné encore, mais lui, il a traîné, il a la matière. Toi, tu as fini très tôt, tu n'as plus la matière. C'est une course à l'infini. Vous savez, certains vont dire, mais oui, mais il y a quand même du plaisir. Mais bien aimé, le premier jour où vous goûtez un whisky ou une vodka, vous n'aimez pas ça. Ça vous brûle. Ça vous chauffe l'œsophage. Ça vous brûle la gorge. Mais imaginez que certains, ils prennent leur petit déjeuner avec deux verres de ça, remplis. Vous imaginez l'écart. Celui qui prend les deux verres, pour lui, ça lui donne du plaisir. Mais toi, ça ne te dit rien. Ça veut dire quoi? Celui qui prend les deux verres, il se trompe en croyant qu'il est obligé pour expérimenter la joie, le bonheur, le plaisir de prendre les deux. Parce qu'il y a un homme qui vit sans ça. Dites-vous bien que le plaisir qui vous tient esclave, il y a des humains qui vivent sans ça. Et ils sont bien. Ça montre la vanité de ces plaisirs qui paraissent incontournables quand on est esclave de ces plaisirs. On a presque envie de donner tort à Dieu, de dire, mais pourquoi il nous prive de ça? Où est le mal? Je ne me tue pas. Il y en a même qui disent, mais il y a beaucoup plus de femmes dans le monde que les humains, les hommes plutôt. Où est le mal? Qu'un homme ait deux ou trois? Il y a un mal. Il y en a qui disent, mais où est le mal? Deux hommes s'aiment. Oh. Le mal, c'est que le Créateur ne veut pas d'un amour physique entre un homme et une femme, entre un homme et un homme. Le Créateur ne veut pas. Parce que longtemps, on a voulu justifier en disant, vous savez, il y a telle conséquence négative. Non, il faut, en tant que chrétien, à un certain moment, ne pas trop vouloir expliquer. Il faut dire, le Créateur ne veut pas. Il a dit dans sa parole, il ne veut pas d'homosexualité. C'est tout. Parce qu'à force de vouloir expliquer, on s'emmêle les pinceaux. Le Créateur ne veut pas. On comprendra tout plus tard. Mais le Créateur ne veut pas. Il y a plein de conséquences négatives. Mais à force de les citer, tu risques d'entrer dans des débats scientifiques. Ce que nous sommes en train de dire est spirituel et divin. C'est l'ordre du Seigneur. Après avoir donné quelques explications, nous revenons à la parole pour dire le Créateur ne veut pas. Les œuvres de la terre, bien-aimées, elles sont passagères. Vous vous imaginez un joueur de football qui a 80 ans. Qu'est-ce que ça lui fait d'avoir été ballon d'or? Qu'est-ce que ça lui fait? Ce qui est important pour lui, c'est de bouger en ce moment-là. En ce moment où il a 80 ans, c'est d'être bien en ce moment. Les photos, est-ce que ça va lui redonner la vie? Non. Et puis, il y en a qui disent, mais bon, autant vivre mieux sur terre, après, là, bien plus tôt sur terre, et après, nous mourrons, tout finira. Donc, carpe diem, donc nous allons nous réjouir sur terre, et bon, c'est bon. Mais bien aimé, ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'après la mort, il y a une vie qui continue. C'est ça la réalité. Et un des artifices du diable, c'est de dire que, bon non, mais après tout, il n'y a rien. Après la mort, il n'y a rien. Donc autant casser la baraque quand tu es vivant. Mais bien aimé, il y a une suite. Après la mort, il y a une éternité. C'est ce qui est écrit, que c'est en ce moment-là que les gens qui auront fait les œuvres du Seigneur vivront de leurs travaux, se reposeront de leurs travaux. C'est en ce moment-là. Bien-aimé, quelle que soit ton orientation, sache que servir Dieu, c'est ça qui est le meilleur. Quel que soit ton âge, moi j'ai toujours regretté. J'ai dit, Seigneur, j'aurais voulu commencer plus tôt que je n'ai commencé. J'ai perdu du temps à servir le monde. Je n'ai rien gagné. Je n'ai connu que des difficultés. Et comme j'ai l'habitude de dire, j'ai failli avoir une jambe plus courte que l'autre en marchant comme on était des jeunes à l'époque, on avait une certaine façon de marcher. Et petit à petit, une jambe commençait à devenir plus courte que l'autre. Voilà les conséquences du monde, bien-aimé. Voilà les conséquences. Et certains sont devenus esclaves de la drogue. Pour toi, aujourd'hui, tu vas suivre aux infos. Tiens, un tel est mort d'overdose. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'ils trouvent dans ça? Oui, un jour, ils sont tombés dans le piège. On se pose la question, mais tiens, celui qui a été attrapé, là, Jean-Luc Delarue. On se dit, mais cet homme, mais il était hyper populaire. Quand on voyait avec ses lunettes, comment il était mignon. Mais tranquille. Mais qu'est-ce qui lui a pris d'aller se prendre dans la cocaïne? C'est les œuvres de la terre. Quand on veut être champion sur la terre, on finit mal. Tu vas aller chez le producteur. Le producteur, tu es là, tu veux être produit. Tu as du talent. Mais on t'invite dans un dîner où il y a toutes les grandes personnalités du showbiz. Il y a même des politiciens. Après, tout le monde passe sniffer un tout petit peu. Et puis, on te fait comprendre indirectement, petit, ici, ça fonctionne comme ça. Mais toi, tu veux être produit. Eh bien, quand tu ne prends pas, on te dit, oh, toi, tu es démodé, il y a un problème. On te fait croire que c'est toi qui as un problème. À partir de ce moment-là, puisque tu veux faire des œuvres, puisque tu veux avancer, puisque tu veux être produit, eh ben, je veux faire semblant. Au début, on dit, je vais faire semblant, de faire comme eux. Ah, tu es pris. C'est fini. On veut satisfaire à cause des œuvres de la terre. Bien-aimés, les œuvres de la terre sont dangereuses. Elles sont périssables. Elles sont injustes. Elles sont insatisfaisantes. Ça ne satisfait pas. Puisqu'on en veut toujours. Quand on voit des gens comme eux, Jean-Luc Delarue, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il cherche encore? Non, mais il est déjà pris. Tu ne comprends pas parce que tu es à l'abri. Reste à l'abri. Mais toi aussi ne tombe pas dans d'autres pièges. Parce que quiconque se croit debout peut aussi tomber. Faisons attention. Servons le Seigneur. Que ta force serve le Seigneur. Que ton temps serve le Seigneur. Que ton intelligence serve le Seigneur. Comment on peut servir Dieu en acceptant premièrement d'être sauvé par lui? C'est ça le premier service. Tu dis, Dieu, le monde, je l'ai vu, ne peut rien m'apporter de concret, de substantiel, d'éternel. Parce que ce qui est important, bien-aimé, c'est un jour de récolter ce que tu as semé. Or, la vie d'un homme conduit plutôt à la perte de ce qu'on a semé. Tu meurs, tu perds les parents, tu perds plutôt les enfants, tu perds tes richesses. Et avec le temps, tu perds ta jeunesse, tu perds ta force. La vie d'un homme, c'est plutôt une perte graduelle. Or, la vraie démarche, c'est un jour après avoir semé, c'est de récolter. C'est ce que la Bible nous propose, de récolter un jour. La mort sera le jour de la récolte, alors que pour beaucoup, la mort sera le jour du jugement. Nous préférons que ce soit le jour de la récolte. Préfère cela. Mais si tu sens le poids du monde très fort sur toi, crie à Dieu, même dans ton cœur. Crie, Dieu, c'est vrai, J'ai écouté ce que disent les chrétiens, ce que disent tes serviteurs, mais je suis bloqué. Je suis déjà esclave de certaines choses. Et il est écrit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Dieu vient, veut délivrer. Jésus dit, le Fils de Dieu n'est pas venu condamner, il est venu sauver. Au lieu de philosopher et de dire, mais oui, mais il m'a créé comme ça, c'est sa faute. Non, il dit qu'il peut te changer, il peut te libérer. Même quand toi-même tu t'avoues, mais Seigneur, je n'ai même pas envie de quitter mes péchés. Mais je crois que ce qui est dit de toi est vrai. Mais je le veux aussi. Aide-moi à bien le vouloir une fois pour toutes, afin d'avoir et de décider de quitter le péché. Le Seigneur t'aidera. Il est venu sauver. Est-ce que tu as vu quelqu'un détruire sa propre production? C'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes sa production. Vous savez, nous sommes tous des humains. Il y a des moments où parfois on se met en colère contre les gens qui font le mal. Et puis un jour, la voix du Seigneur m'a dit, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un détruire sa propre production? Dieu voulait me dire qu'il aime les humains et que moi, je devais les aimer aussi. Parce que Dieu, il a produit et il ne peut pas vouloir détruire sa production. Mais les hommes, s'ils ne veulent pas, ils seront détruits par leur propre péché. Ils iront en enfer par eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne veut que sauver. Apprenons cela. Sois sûr de cela et crie, même dans ton cœur, crie auprès de quelqu'un qui est avec Dieu. Dis-lui, mon cher, je sais que je suis dans l'erreur. Priez pour moi, que Dieu me sorte de là. Crie, parle au Seigneur. Il est partout, il va écouter. Mais accepte le salut du Seigneur. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi on appelle l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Parce que c'est une bonne nouvelle que Dieu ne vient pas te juger, il vient te sauver. Et cette bonne nouvelle est réelle. Tant que tu es vivant, cette bonne nouvelle est aussi vivante pour toi. Accepte le Seigneur. Il est écrit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Accepte que toutes choses deviennent nouvelles. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va venir habiter en toi et il va commencer à fonctionner en toi. Tu vas devenir le véhicule du Saint-Esprit. C'est ça qui est beau. Vous savez, même nous les chrétiens, parfois nous sommes dérangés par le péché. Et je me souviens d'un passage biblique où Paul répond à ce problème. Il dit dans Romains 7, il dit que je suis dérangé, je veux faire le bien, mais c'est le mal qui a une prise sur moi. Et il donne lui-même la réponse au chapitre 8 qui suit. Il dit, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui en sont en Christ. Car la loi du péché et de la mort a été vaincue par la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Nous avons une loi aussi. C'est comme l'avion. Il subit la loi de la pesanteur, mais il vit aussi la loi de la résistance de l'air. Et donc, en ce moment-là, la résistance de l'air est plus forte que la loi de la pesanteur. Et c'est ce que nous sommes, nous, les chrétiens. Nous vivons la pesanteur. Nous subissons plutôt la pesanteur du péché, mais nous vivons par la loi de l'esprit de vie qui est supérieure à cette pesanteur-là. Et nous pouvons vaincre jusqu'au bout. C'est ça être chrétien, animé de l'esprit de vie. Même si le poids du péché est fort, mais la puissance du Saint-Esprit est supérieure. Et la somme fait que tu es vainqueur. Toute cette démonstration se trouve après dans Romains 8. Romains 8, c'est merveilleux. Nous allons lire pour voir la démonstration, la suite que Paul donne à la faiblesse humaine du chrétien. Qu'est-ce qu'il dit donc à partir du verset 1 Premier, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Maintenant, il continue, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Verset 5. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Et du moins, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et nous continuons, bien-aimés, verset 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons donc avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou le dénuement? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Voilà ce que Paul nous dit. Étant chrétiens, nous subissons toute forme de force négative. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est son amour qui nous maintient et nous maintiendra jusqu'au bout. C'est pourquoi Paul est arrivé à la fin et il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai cru en Dieu, je l'ai servi et j'ai gardé la foi. Que cette année nouvelle soit pour nous une année où nous allons servir l'Éternel, où nous allons nous confier en lui. Totalement. Pour dire, les temps sont durs, Seigneur, je veux te servir. Les gens ne t'aiment pas, ne t'aiment plus. Alors je vais t'aimer à leur place. Les gens ne te louent plus, moi je vais louer à leur place. Les gens t'ont mis à la dernière place, moi je te mets à la première place. Une année où tu vas servir l'Éternel. C'est important que chacun de nous obéisse à l'appel du Saint-Esprit. Servir Dieu, c'est ça. Tu vis par la foi. C'est-à-dire que la force ne vient pas de toi. Tu sais que c'est Dieu qui va t'animer, qui va te fortifier. C'est Dieu qui va te donner la puissance. C'est Dieu qui va établir toutes choses pour toi. C'est ça, vivre par la foi. Mais en même temps, tu vis selon la conduite du Saint-Esprit. Comment ? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi ? Tu acceptes la manière dont Dieu veut que tu le serves. Tu réponds à l'appel de Dieu. Vous savez, autrefois, on nous a manipulés. On nous a fait croire que l'appel, c'était un titre, forcément. Tu es appelé prophète, pasteur, apôtre. Non, l'appel de Dieu, c'est faire ce qu'il faut. C'est faire ce qu'il faut. C'est ça la sagesse. Au bon moment, faire ce qu'il faut. C'est ça l'appel du Seigneur. Après, il peut toujours t'appeler à avoir un ministère avec un titre. Mais tout ça est secondaire à l'obéissance de l'appel du Saint-Esprit de tous les jours. Le Saint-Esprit t'appelle chaque jour à servir l'Éternel, toi qui es chrétien. Il faut le servir. C'est pourquoi il est écrit dans Colossiens 3, 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, non comme pour le Seigneur, non comme pour les hommes, mais comme pour le Seigneur. Faites-le de bon cœur, parce que c'est l'appel de Dieu pour vous. Tu es embauché quelque part. Travaille comme il faut, parce que c'est l'appel de Dieu pour toi. Ne fais pas comme si ton travail était étranger à ta vie spirituelle. C'est pourquoi beaucoup font des fautes, commettent des péchés au travail et ils viennent vouloir récupérer le soir. Non, ton travail, puisque tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, c'est ton appel en ce moment-là. Fais-le en honorant Dieu qui t'a donné ce travail-là. Non comme pour les hommes, mais comme pour le Seigneur. Ce qui fait que tu obéiras à tes responsables, même s'ils sont méchants, comme il est écrit dans 1 Pierre 2. Que chaque chrétien entre dans son appel, travaille pour le Seigneur. Beaucoup regardent, observent les autres travailler. Et ils finissent par dire, c'est leur église. Non, l'église, c'est l'église du Seigneur. C'est notre église. Quand moi je vais prêcher au Maroc, c'est mon église. Si j'ai des choses à dire, je vais le dire parce que c'est mon église. C'est l'église de mon Père. Quand je suis dans une autre église, c'est mon église. C'est l'église de mon Père. Je ne suis pas là pour observer les fautes des autres. Je suis là pour servir l'Éternel. Soit par mes prières, soit par mon silence, soit aussi par mes remarques, soit par mes chants. Mais je sers l'Éternel. Il faut servir Dieu. Amen. Il faut servir Dieu. Que notre force serve à servir Dieu. Que notre argent soit utilisé pour la gloire de Dieu. Que nos enfants soient utilisés pour la gloire de Dieu. Que notre temps soit utilisé pour la gloire de Dieu. Et un jour, nous nous reposerons de ses œuvres. Apocalypse dit, ces œuvres-là vont nous suivre. Bien-aimés, sans la foi, tu ne peux pas entrer pleinement dans ton appel. Il faut que tu croies que Dieu s'occupe de toi. Beaucoup de gens disent toujours, mais bon, je ne suis pas trop sûr, je ne suis pas trop sûr. Parce qu'ils veulent être calmés par leur intelligence qui va leur dire, il y a tout ce qu'il faut. Et Dieu ne marche pas avec notre intelligence. Dieu veut que nous marchions par la foi. Il ne va pas te dire qu'il y a tout ce qu'il faut. Il va te dire, suis-moi. C'est toi qui dois croire qu'il y a tout ce qu'il faut. Suis-moi, Dieu dit. C'est toi qui dois te rappeler que ton Père, c'est le Tout-Puissant, donc il a tout mis. Il a tout ce qu'il faut. Et quand nous avons cette foi-là, nous nous laissons. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Donc c'est la foi qui te permet de continuer, de travailler parce que tu sais que Dieu s'occupe de tout. Et tu entres pleinement dans l'appel du Seigneur. Chacun de nous connaît comment Dieu est en train de l'attirer en ce moment. Tu connais la pression que Dieu, que Dieu est en train de te mettre. Certains, tu peux avoir la pression de commencer à aimer les autres, de commencer à visiter les autres. Entre dans l'appel de Dieu. Tu peux avoir la pression de commencer à te taire. Dieu peut te dire, toi, il faut que tu te taises maintenant. Tu peux avoir la pression de parler. Entre dans l'appel de Dieu. Ce n'est pas une question de titre, c'est une question d'obéissance. Obéissons à la voix du Saint-Esprit. Que chacun fasse ce qui est bien, poussé par le Saint-Esprit, sans faire que l'intelligence devienne un obstacle à l'appel de Dieu. Parce que ton intelligence peut te limiter, peut te bloquer en te donnant des faux raisonnements. Or, nous marchons par la puissance du Seigneur, donc l'intelligence ne peut pas comprendre ces choses-là. Ce sont des choses spirituelles. Je voudrais parler aussi, bien-aimés, d'un problème que nous, les chrétiens, qui voulons aussi travailler pour Dieu, nous rencontrons. C'est que parfois, nous confondons ce qui est notre désir, qui est nos bons désirs, je veux dire, qui sont en réalité le désir même de Dieu. Dieu veut sauver toute l'humanité. Dieu veut qu'il y ait la vérité partout. Dieu veut qu'il y ait les gens soient heureux. Il le veut. Dieu veut régler les problèmes des gens. Mais il a ses procédures. Souvent, quand Dieu nous appelle, nous sommes premièrement bloqués parce qu'on a l'impression que l'appel est trop dur ou trop grand. Et ce n'est pas bon. Nous devons marcher par la foi. Mais un autre problème survient, c'est quoi? C'est que nous voulons remplacer le Seigneur. Seul le Seigneur peut tout régler. Comprenons que même si on a les désirs que toute l'humanité soit sauvée, peut-être que Dieu ne t'appellera à sauver que 5 personnes. Mais tu contribueras à cette politique du Seigneur qui vise à sauver toute l'humanité. Et aujourd'hui, beaucoup de serviteurs se sont égarés. Pourquoi? Parce que Dieu les appelle pour quelque chose. Dans un petit village, directement, c'est écrit sur le mur, centre d'évangélisation mondiale. Ah, toi tu n'as même pas commencé à évangéliser une ville. Tu écris centre d'évangélisation mondiale. Pourquoi? Surtout en Afrique. Donc quelque part, c'est par la foi. Non, par la foi, sauve d'abord ton quartier. Donc les gens veulent se transformer en justiciers du monde entier. Ah non, mais il faut suivre notre réforme. Mais non, on doit suivre qui? Jésus. Maintenant, Dieu t'a mis une vérité. Mais les brebis que Jésus a prévues qui te suivent, elles te suivront. N'oblige pas l'humanité entière à te suivre. Prêche la vérité, fais ton travail et les brebis que le Seigneur a prévues dans sa sagesse, parce que c'est lui le général, le chef d'état-major. Il sait à quel bataillon il va envoyer telle brebis. Il sait. Alors donc, ne nous transformons pas soi-même. Ne décidons pas que soi-même, nous sommes établis comme prophètes de l'humanité. Non, on est prophètes de Dieu, on est serviteurs de Dieu. Faisons ce que nous avons à faire chaque jour. Et les gens que Dieu a prévus que nous atteignions, nous les atteindrons non pas parce que nous l'avons décidé, parce que le Saint-Esprit l'a décidé. Beaucoup de chrétiens n'ont pas une bonne vie parce qu'ils sont plus des microscopes que des médicaments. Ils sont très forts pour voir les défauts chez les autres. Et ils ne sont pas du tout efficaces pour aider les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de leur désir leur appel. Non, nos désirs ne sont pas notre appel. Nous voulons
que toute l'humanité soit sauvée. Regardez comment Jésus a parlé aux disciples. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'est ça le désir du Seigneur, que les chrétiens fassent que tout le monde soit sauvé, le monde entier. Mais cependant, chacun a son appel. Il dit à Pierre, puisque Pierre veut s'intéresser, mais qu'adviendra-t-il de Jean? Jésus dit à Pierre, ce que je veux faire de lui, ça ne te regarde pas. Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, ben il vivra, il ne mourra pas. Où est ton problème? Toi, suis-moi, je t'amènerai où tu ne voudras pas. Chacun a son appel. Pierre est mort, crucifié à l'envers. Et comme les historiens le disent, c'était son appel. Il y en a qui sont morts, décapités. Il y en a qui sont morts, mangés par des lions. Chacun a son appel. Ne nous transformons pas en Seigneur Jésus-Christ. Voulant que l'humanité entière suive notre ministère. Voulant que... Il y a des gens à l'église, ils sont là, ils disent, je balaye en attendant. En attendant quoi? Je balaye en attendant. En attendant de prêcher devant, en utilisant le micro. Non! Balayer, c'est ça ton ministère. Fais-le. Si Dieu veut que tu prêches, tu le feras puisque c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Toi, accomplis la tâche que Dieu te confie à un moment donné. Il n'y a pas de en attendant. La tâche que tu as à un moment, c'est la plus grande tâche que Dieu ait pu te donner. Parce que le lendemain n'est pas encore arrivé. C'est aujourd'hui qui compte. Il est écrit, à chaque jour suffit sa peine. Ne nous transformons pas en Seigneur Jésus-Christ. Non. Restons ce que nous sommes. Un humain. Délimité. Vous savez, les humains vont chercher à nous donner des rôles que Dieu ne nous a pas donnés. On est venu voir Jésus pour dire, partage-nous l'argent. Dans Luc 12, Jésus dit, mais non. Qui vous a dit que moi, on m'a établi pour partager les héritages? Jésus dit, mais pourquoi vous vous battez pour les héritages? Laissez, si quelqu'un veut votre héritage, donnez-lui. Parce qu'à quoi ça sert qu'un homme amasse des biens s'il finit en enfer? C'est amasser plutôt au ciel. Là où il n'y a pas de ruine, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de teigne. Amasser là-bas. On a voulu donner à Jésus des rôles qu'on ne lui a pas donnés par le papa. Et c'est pourquoi lui-même dit dans Jean 5, j'observe ce que fait mon père et moi je fais pareil. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire que les gens se tromperont toujours. Au contraire, quand les disciples appelaient Jésus maître, ils ne se trompaient pas. Quand Pierre a appelé Jésus fils de Dieu, il ne s'est pas trompé. Mais cependant, en plus de cela, il y aura aussi des gens qui viendront nous attribuer des rôles qui ne sont pas les nôtres. Soit les nôtres, à un moment donné, mais soit pas les nôtres du tout. Parce que Jésus, on a voulu faire de lui le roi à un moment donné par les humains. Il a refusé. Parce que ce n'était pas le moment. Mais après notre temps, c'était le moment. Il a été accueilli à Jérusalem comme le roi. Envoyé par le Seigneur. Sachons respecter les temps du Seigneur, bien-aimé. Faisons ce qui est bon à un moment donné. Et faisons le bien. Comme servant le Seigneur. Nous sommes souvent écartés de la voie de Dieu parce que nous voulons faire que toute l'humanité nous suive. Et puis on diminue. On veut que toute l'Église nous suive. Toute l'Église connaisse notre don. On diminue. On veut que toute sa famille connaisse son don. Donc c'est toujours ça. À chaque fois, nous voulons faire que les humains nous acceptent. Que les humains nous suivent. Non, bien-aimé. Paul dit, j'ai appris à vivre dans la bonne réputation comme dans la mauvaise réputation. De Corinthiens 6. Il faut accepter qu'il y ait des gens qui considèrent qu'on est des faux serviteurs. Il faut accepter qu'il y ait des gens qui considèrent qu'on exagère. Il faut accepter tout ça parce que ça prouve au moins qu'on est des humains et qu'à Dieu seul la gloire. Voilà ce que Richard Rembrandt a dit. Il a dit, quand les gens me critiquent alors que je sais que je souffre, vous savez, les gens qui connaissent Richard Rembrandt, penser qu'on critique un tel homme, bon, c'est... Mais, il dit, au moins c'est bien afin que la gloire soit rendue à Dieu tout seul. Que les gens me critiquent, c'est bien. Et qu'ils élèvent Dieu, c'est mieux. C'est ça, bien-aimé. Nous devons accepter la bonne comme la mauvaise réputation. C'est le travail qui fera la différence. Continue à faire ton travail, dans la bonne comme dans la mauvaise réputation. Un jour, le travail produira les fruits. Les gens verront le travail et reconnaîtront que tu es de Dieu. David fuyait Saül. Saül chercha à le tuer. David s'est retrouvé dans la position de tuer Saül. Il ne l'a pas fait. Saül, à distance, il a dit, « David, c'est toi qui seras le roi. Dieu te bénira. Toi, tu es vraiment de Dieu. » Donc même s'il voulait le tuer, il a vu que cet homme-là, il est de Dieu. Vous savez, la grande preuve, ne cherchez pas la popularité pour qu'on dise de vous que vous êtes vraiment de Dieu. Mais priez seulement que les ennemis, ceux qui vous combattent, que dans leur propre cœur, ils le reconnaissent. Le but, ce n'est pas qu'on le reconnaisse à la télévision. Le but, c'est que la personne qui vient de mal parler de toi, quand elle rentre dans sa chambre, elle se dise, j'ai fauté. C'est la jalousie qui m'a conduit. C'est ça qui est beaucoup plus puissant que publiquement, on te publicite, comme certains serviteurs font, ils font passer quelqu'un qui dit, « Bon, j'avais critiqué le pasteur, maintenant je me suis rendu compte. » Ah, les gens applaudissent, ah, mais non. C'est pas ça le but, que les gens reconnaissent. Le but, c'est que dans le cœur, les gens qui parlent mal, dans leur cœur tout seul, se disent, là, c'est ma chair qui parle. Mais en réalité, cette femme, cet homme, il fait le travail du Seigneur. Voilà. Je ne suis pas d'accord charnellement, c'est tout. Ça, c'est ce que Dieu veut. Que lui soit glorifié. Pas nous. Donc, acceptons qu'on n'ait pas l'unanimité. Ne cherchons pas à faire le Charles Bronson, justicier de l'humanité. Non. Restons simples, faisons notre travail chaque jour, chaque jour, chaque jour, en nettoyant, chaque jour, en prêchant, chaque jour, en chantant. Tu fais le service de l'Éternel parce que la force qu'il t'a donnée, c'est pour le servir, chaque jour. Et je vais vous donner un moyen supérieur, c'est la prière. La prière nous autorise à être, oui, là maintenant, nous pouvons être autorisés à être Dieu. Parce que Dieu veut le salut de l'humanité. Et bien dans la prière, nous on peut dire, Seigneur, nous voulons que l'humanité soit sauvée. Donc tout ce que peut-être nous, humains, nous n'avons pas reçu l'autorisation de faire, nous pouvons faire cela dans la prière pour le salut des âmes, pour la glorification de Dieu. Donc dans la prière, tu peux glorifier l'Éternel pendant des heures et des heures. Dans la prière, tu peux dire, Seigneur, je veux que ma famille soit sauvée. Dans la prière, tu peux dire, je veux que l'Église soit propre spirituellement. Dans la prière, tu peux dire, Seigneur, je veux que le pasteur se maintienne dans la vérité. Dans la prière, tu peux tout faire par rapport à la volonté de Dieu. Donc un vrai chrétien doit se rendre compte qu'il a une grande puissance. C'est la prière. C'est la prière qui fait de lui quelqu'un d'invincible parce qu'il peut prier, il peut prier comme il veut. Mais l'action n'est pas forcément possible. Parce qu'il y a l'appel, il y a les rôles que Dieu nous a fixés, il y a les obstacles. Vous savez, il y a des moments où Paul, on l'a empêché d'aller évangéliser dans des endroits. Lui-même reconnaît. Il y a un moment, il dit, c'est le Saint-Esprit qui m'en a empêché. Il y a un moment, il dit, c'est le diable qui m'en a empêché. C'est possible. Mais on ne peut pas bloquer la prière. Dans la prière, on peut transformer les âmes. Vous savez, David a été chassé du trône par son fils. Et le plus grand conseiller de David, Ahithophel, et on disait de lui que, quand il conseillait David, David considérait ça comme la parole même de Dieu. Et son plus grand conseiller le trahit, va avec son fils. David était conscient que la seule personne qui était vraiment à son niveau, c'était ce conseiller-là. C'est vrai que tous les restes, c'était des petits. Mais c'est vrai que Ahithophel, lui, il a reçu quelque chose à ma dimension. Lui peut me combattre sérieusement. Et quand David s'en allait, il priait dans son cœur, « Seigneur, détruit les conseils d'Ahithophel. » Parce qu'il savait que si cet homme-là conseillait son fils, lui, David, c'était fini. il priait, détruit les conseils d'Ahitophel. Et il a envoyé un autre conseiller pour être comme un espion. Et quand Ahitophel a donné le bon conseil pour détruire David, c'est lui qui a donné le bon conseil. Parce que le fils de David cherchait à détruire David. Et Ahitophel donne le bon conseil. Et l'espion de David casse le conseil d'Ahitophel. Il donne un autre conseil. Et Absalom, le fils de David, choisit le conseil de l'espion. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais la prière a une puissance. David disait, Seigneur, détruis le conseil d'Ahitophel. Et ça a été détruit. Ça n'a pas été suivi. Il est parti lui-même se suicider. Parce qu'il a compris que c'était fini pour lui. Si on ne l'écoute plus, ça veut dire qu'on l'a considéré déjà comme un ennemi. C'est ça la réalité, bien-aimé. Nous pouvons prier pour le salut de l'humanité, pour le salut du quartier. Nous pouvons prier pour que les serviteurs de Dieu soient vrais. Dans la prière, nous pouvons faire tout cela. Nous avons une arme absolue, c'est la prière. Prions pour que nos pays changent. Prions. Même dans 1 Timothée 2, c'est écrit, avant toute chose, faites des prières pour ceux qui nous dirigent. Prions. Ne passons pas notre temps à critiquer. Prions. Et en priant, le Seigneur va agir. Nous avons la prière. Servons le Seigneur avec la prière. Que cette année, bien-aimée, soit une année où tu vas servir maintenant Dieu à 100%. Où tu vas te dire que ma vie soit pour lui. Cantique 2:16. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Que ce soit ton chant. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Et quand viendra la faiblesse, souviens-toi, la loi de l'esprit de vie est plus forte que la loi du péché et de la mort. Ayant foi en cela, crie au Seigneur, le Seigneur viendra te relever. Souvent la faiblesse, c'est parce que vient lorsque l'orgueil de réussir nous commence à nous détruire. C'est là que la faiblesse se manifeste. Quand tu as trop réussi, tu commences à te croire fort. Et la faiblesse vient te montrer. La faiblesse est l'alarme pour te dire que l'orgueil commence à monter. Humilie-toi. Et humilie-toi. Et tu verras que le Seigneur agira. Nous devons servir le Seigneur parce qu'il est aussi notre amour. J'aime Paul quand il dit dans Philippiens 3, j'ai renoncé à tout pour servir le Seigneur qui m'a tant aimé. Je veux clôturer par ce passage, Philippiens 3. Servir le Seigneur, ce n'est pas une question exclusivement tactique, c'est vraiment par amour que nous devons le faire. Verset 7, Philippiens 3, verset 7. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. Mon Seigneur, à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Laissons-nous saisir par l'amour de Dieu et nous répondrons aussi par l'amour. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Ne servons pas le Seigneur par tactique, par esprit de tactique, par stratégie humaine. Servons-le parce que nous avons été touchés par son amour. Jésus est bon. Jésus a donné sa vie pour nous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus a dit, quand il est entré chez Zachée, le salut est entré dans cette maison. Quelle belle parole dans la maison d'un homme pécheur. Jésus est bon. Vous savez, quand j'observe Jésus, je me dis qu'il mérite que je le serve. Un cœur d'amour comme ça, il n'y en a pas. Quand les gens le préfèrent à Barabbas, un brigand, Jésus à la croix dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On déchire ses vêtements. On dit, sauve-toi toi-même. Et le voleur se répand. Jésus dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Bien-aimé, le premier qualifié. C'est beau qu'un voleur soit le premier. Quand tu observes quelqu'un comme ça, tu ne peux plus rester égoïste. C'est impossible. C'est ce qui est arrivé à Zachée. Quand il a vu Jésus, il a dit, mais non, c'est ce que l'homme doit être. J'arrête. Je suis Jésus. J'arrête. L'amour de Jésus est grand, bien-aimé. Moi, je ne me suis pas converti avec des prédications du genre, viens Jésus, va te délivrer, il est puissant. Non. Je me suis converti avec la logique. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. J'ai vu Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Quel amour! Suivons son exemple et offrons-nous. N'utilisons pas des stratégies avec le Seigneur, mais donnons-lui notre vie comme un sacrifice vivant et qui s'en serve. Souvenez-vous, si vous êtes quelqu'un qui polémique trop dans votre tête, vous n'avez pas saisi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne demande qu'à s'offrir. L'amour de Dieu te poussera à t'offrir, c'est tout. Les polémiques, ça amène des distractions. L'amour de Dieu conduit à la prière, à la vérité et au service de l'Éternel. On était là vendredi. C'était prévu qu'on mange vers 22h30, 22h40. Ben, on a senti l'amour de Dieu se manifester. On a loué Dieu jusqu'à minuit 20. Ce ne sont pas des choses qu'on calcule. On se laisse emporter par la grâce de Dieu. Tous les calculs sont vains, ça ne produit pas la vie. Les enfants n'étaient pas fatigués. Ils n'ont même pas cherché à manger. Parce que l'amour de Dieu les portait. Mais il y a des gens qui allaient dire, mais il faut être raisonnable, c'est quand même des enfants. Oh, la raison a produit les bombes atomiques. Soyons spirituels. Amen. Cet enfant-là qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé. Pourquoi il ne va pas louer l'Éternel? Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous, Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Ton nom est le plus beau. Tu es un merveilleux sauveur. C'est pourquoi nous ne voulons pas polémiquer, mais nous voulons te suivre, Jésus. Où tu seras, c'est là que nous serons, ô Éternel. Remplis-nous de ton amour, afin que cela produise l'amour pour toi et que l'amour pour toi produise le service à ta gloire. Nous voulons faire ce qu'il faut sur terre, afin qu'au dernier jour, afin qu'après notre mort, nous nous reposions de nos travaux, Seigneur. Nous soyons les hommes les plus heureux. Seigneur, sur la terre, lorsque quelqu'un reçoit le ballon d'or, l'année prochaine, on donne le ballon d'or à quelqu'un d'autre. Mais au ciel, quand on aura un titre, on le garde à jamais. Oh Seigneur, Béni soit ton nom. Toi qui nous enseignes, afin que nous gardions la parole de la persévérance. Oh, merveilleux Sauveur, nous voulons te servir. Pendant qu'on chante, frère ou sœur, décide-toi, humilie-toi. On ne suit pas une église, on suit le Seigneur. Décide-toi à le servir. Et tu peux par humilité passer devant, manifester cela en t'agenouillant ou en restant debout, en signe d'abandon entre les mains du Seigneur. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui je prends la décision et je ne vais pas reculer. Je refuse les polémiques. Je refuse les choses de cette terre. Je sais que toi, tu as vraiment quelque chose d'important à me donner. C'est ta propre vie, Jésus, et je vais vivre cette vie. C'est l'heure de la décision. C'est l'heure de la décision.